Vous écoutez France Culture.
Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. Notre émission d'aujourd'hui pourrait s'intituler « Des médias et des hommes », car nous allons parler surtout de deux hommes qui les ont marqués de manière bien différente. L'abbé Bethléem, 1869-1939, croyait à la puissance du livre. Il était un obsédé des mauvaises lectures, contre lesquelles il a mené une guerre sans merci, que nous raconte Jean-Yves Mollier, professeur à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, dans un livre savant et savoureux, La mise au pas des écrivains, l'impossible mission de l'abbé Bethléem, livre qui vient de paraître chez Fayard. Jean d'Arcy, 1913-1983, a été un des créateurs de la télévision dont il a dirigé les programmes dans les années 1950. Marie-Françoise Lévy, chercheuse au CNRS, a dirigé aux publications de la Sorbonne un livre intitulé « Jean d'Arcy, penser la communication au XXe siècle ». L'un, l'abbé Bethléem, était hanté par les méfaits des mauvaises lectures et il était un homme de censure et de contrôle. L'autre, Jean d'Arcy, était épris d'une liberté qu'il avait défendu dans la Résistance et dont la télévision lui semblait le moyen le plus moderne, le plus démocratique, le plus universel. Leur histoire contrastée s'inscrit dans celle plus vaste des médias et de leur influence dans la société contemporaine, d'où aussi les aspects politiques de l'action de l'abbé Bethléem et de Jean d'Arcy, leur relation avec les pouvoirs, Église, État, organisations internationales, etc. C'est cette histoire de la culture médiatique, médiologique, comme dirait Régis Debray, que nous allons explorer avec Jean-Yves Mollier, Marie-Françoise Lévy et Evelyne Cohen. Evelyne Cohen est professeure à l'École nationale supérieure des sciences de l'information à Lyon et avec Myriam Tsikounas, elle vient de publier un livre collectif tout à fait passionnant qui s'appelle « 1967 au petit écran, une semaine ordinaire » et ce livre vient de paraître aux presses universitaires de Rennes. Alors nous voilà avec des experts de l'histoire contemporaine des médias et je vous remercie tous les trois d'avoir répondu à mon invitation. Alors on va commencer par l'abbé Bethléem, quand même tout seigneur, tout honneur. Jean-Yves Mollier, vous êtes un spécialiste de l'histoire culturelle. Vous avez publié des grands livres sur Hachette, sur Larousse, sur les rapports entre l'argent et la presse, etc. Et peut-être d'autres livres que vous avez vous-même envie de citer. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à l'abbé Bethléem, qui ne vous ressemble pas, Jean-Yves Mollier ?
Non, c'est probablement l'attirance pour un homme qui représente tout ce que je déteste, à savoir la censure, à savoir le refus pour l'individu de le laisser choisir lui-même ses lectures ou les spectacles auxquels il peut assister. La deuxième raison, c'est que depuis une trentaine d'années, je le rencontre quand même un peu partout. Il est présent, en effet, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas exhumé du passé. D'autres avant moi avaient croisé ce personnage. Je pense à Anne-Marie Thiès dans le roman du quotidien, je pense à Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard dans les discours sur la lecture. Et moi-même, j'avais, il y a une vingtaine d'années, proposé à une de mes étudiantes de rédiger un mémoire de maîtrise d'histoire sur ce personnage. Il est important, quoique évidemment assez peu connu aujourd'hui, on peut le représenter comme une sorte de père Fouettard. Et c'est comme ça d'ailleurs que les caricaturistes l'ont mis en scène. C'est également comme cela que les surréalistes, qui voulaient le boxer, qui parcourait les avenues de Paris pour essayer de le rencontrer au moment où il déchirait les revenus du type Froufrou ou le Gay Paris. C'est comme ça, au fond, que les surréalistes l'ont, en quelque sorte, imaginé.
Or, ils l'ont peut-être rendu célèbre d'une certaine manière.
Ils ont contribué, bien sûr, à sa célébrité. Or, le personnage est intéressant parce qu'il représente un moment fort, peut-être le dernier, du moins dans la séquence fin XVIIIe siècle, milieu du XXe siècle, le dernier où l'Église catholique est en capacité d'influer en profondeur sur l'opinion de la masse des Français. Certains me rétorquent, mais on est pourtant à une époque où la déchristianisation, où la séparation des Églises et de l'État fait que l'Église catholique n'occupe plus un rôle primordial.
Or, c'est peut-être une raison pour elle, justement, de s'accrocher à ce qu'elle peut encore contrôler, peut-être.
J'avance même l'idée qu'au fond, contrairement à ce qu'elle a cru sur le moment, la séparation a été une chance extraordinaire pour l'Église catholique française. Parce qu'auparavant, elle était liée à l'État. Les prêtres étaient salariés, les évêques, les curés de paroisse recevaient leur salaire de l'État et d'une certaine manière étaient obligés de composer, de mettre en veilleuse leur opposition. À partir de 1905, c'est terminé. On le voit dès 1909 avec la fameuse lettre des évêques qui demande aux pères de famille catholiques de regarder le contenu des manuels scolaires et de refuser un certain nombre de manuels. Et puis cela va aller crescendo dans les années 30. La Fédération nationale catholique, dont l'abbé Bethléem est l'un des porte-parole patentés, comptera 2 200 000 adhérents, sera capable de faire reculer le bloc des gauches, sera capable de maintenir le fameux statut en Alsace-Moselle qui fait qu'aujourd'hui, les prêtres, mais pas seulement les prêtres, les pasteurs et les rabbins sont salariés de l'État. On a maintenu le concordat dans les départements récupérés après la guerre de 14-18. La Fédération nationale catholique a été capable d'influer en profondeur, et je m'arrête peut-être sur les deux victoires au fond posthume de l'abbé Bethléem, le décret-loi qui impose le code de la famille en 1939 et la loi de protection de la jeunesse du 16 juillet 1949.
Oui, on reviendra tout à l'heure notamment sur la dernière de ces lois. Mais donc l'abbé Bethléem, oui, c'est un moment important. Et qui était-il? D'abord, il a un nom extraordinaire tout de même, Bethléem. Et moi au début, je me demandais si c'était pas presque un pseudonyme, mais pas du tout, pas du tout. Il vient d'une famille flamande.
Voilà, son origine est
la région d'Asbrook. Oui.
Son origine de fond toute simple. Au départ, c'est une famille qui s'orthographie Bethlen, mais avec la prononciation locale, elle est déformée en Bethlehem, puis ensuite en Bethléem. C'est lui probablement qui a rajouté l'accent aigu. C'est là peut-être où effectivement
il a donné sa marque.
Voilà, au grand séminaire de Cambrai, puis ensuite quand il est professeur dans une école libre, c'est là véritablement que l'abbé Bethléem considère peut-être que c'est un signe du ciel, qu'au fond, il porte le nom de la grotte dans laquelle serait né le Christ. Oui. Il le dira d'ailleurs plusieurs fois avec un peu d'humour en disant qu'effectivement, sa revue, la revue de lecture, est une sorte de niche, une grotte, comme l'était Bethléem. Oui. Alors, qui est-il? C'est un prêtre flamand, né dans une famille de paysans, très modeste, une famille à la fois extrêmement profonde. Les deux garçons deviendront prêtres à un an d'intervalle, l'abbé Bethléem en 1894, son frère l'année suivante. Seule la fille se mariera et aura des enfants.
Mauvais destin, en somme.
Absolument. Ce sont des catholiques extrêmement croyants, d'une foi assez simple. On est dans une région, le Nord, où les familles nombreuses sont la règle et les familles avec deux ou trois enfants, l'exception. On est également dans une région où le clergé ne subit pas la crise générale que l'on observe après la séparation avec un recul des ordinations. On est donc dans une région extrêmement militante. C'est là où se réunissent chaque année les congrès des œuvres diocésaines. C'est là également où est né l'abbé Lemire.
Oui, l'abbé Lemire qui lui s'illustre pour ses positions sociales.
Voilà, l'abbé Lemire s'illustre pour ses positions sociales. C'est un prêtre démocrate. Il est un peu l'antithèse de l'abbé Bethléem. Parce que l'abbé Bethléem fait partie de ces jeunes prêtres, de ces jeunes clercs, qui deviennent prêtres à un moment où l'Église catholique enseigne l'antimaçonnisme comme une matière obligatoire.
Au fond, l'antimaçonnisme,
c'est-à-dire la dénonciation de la franc-maçonnerie comme une société secrète chargée de remplacer l'Église catholique. La franc-maçonnerie, c'est en quelque sorte le deuxième ennemi de l'Église catholique. Le premier, c'est évidemment les protestants. On l'oublie aujourd'hui, parce que le premier grand schisme, la première grande réforme, c'est évidemment celle des protestants. La deuxième, les francs-maçons, coupables d'avoir en quelque sorte déclenché la Révolution française. Troisième adversaire, les juifs. Et là, il ne s'agit plus simplement d'un anti-judaïsme traditionnel envers le peuple déicide, il s'agit bien d'un antisémitisme. Le journal La Croix publie le 24 août 1890 un article en première page intitulé « Nous sommes le journal le plus antisémite de France ». Il faut donc en prendre complètement conscience en ajoutant le quatrième adversaire, les étrangers ou les métèques. On est donc dans une très grande proximité avec l'horizon idéologique de l'Action française, avec Charles Maurras et son combat contre les quatre États confédérés. Voilà un peu qui est l'abbé Bethléem. C'est donc quelqu'un qui est violemment anti-républicain, contre la démocratie, et qui considère que l'ordre naturel, eh bien, c'est celui qui existait au Moyen-Âge, à quelques nuances près.
Oui. Et alors, quelle a été sa formation, bien entendu? Petit séminaire, grand séminaire, à Cambrai, je crois.
Oui, on pourrait même commencer avant. Il passe très rapidement par les petites écoles religieuses qui n'ont pas disparu au début de la Troisième République et qui sont très nombreuses dans le Nord. Ensuite, le petit séminaire de Cambrai et le grand séminaire de Cambrai. N'oublions pas que Lille ne deviendra évêché qu'en 1913. Donc, c'est à Cambrai que l'on forme véritablement ce clergé de combat, ce clergé militant qui est formé dans un esprit de reconquête. Au fond, je le disais tout à l'heure, la séparation va être une chance parce que ce clergé est tout à fait capable de lutter contre les bibliothèques populaires en inventant ou en réinventant les bibliothèques paroissiales, de lutter contre l'emprise des laïcs en inventant ou en réinventant le patronage. Le patronage, dont au fond, ça va nous rapprocher de Jean Darcy, dont les deux armes seront le ballon de football et la lanterne magique, c'est-à-dire le cinéma. Deux moyens d'accrocher la jeunesse et d'être en phase avec son époque.
Oui, puisque vous parlez de ça, l'abbé Bethléem s'avère très conscient de l'importance des autres médias.
Exactement.
On verra qu'il s'intéresse au théâtre, au cinéma, enfin des choses que évidemment, voilà. Jean Darcy...
Sa première revue s'appelle La Revue des Romans, mais très vite, après la Première Guerre mondiale, il en transforme le titre, c'est La Revue des Lectures. Au fond, c'est un magazine culturel qui traite à la fois de littérature, qui traite de la presse quotidienne, qui traite des magazines, qui traite de la radio et qui traite du cinéma.
Oui, mais alors, rapidement, les étapes de l'abbé Bethléem. Il publie d'abord un espèce de petit brûlot, hein, comme vous dites, roman à proscrire. Quel est le titre exact?
Le titre exact, en 1904, c'est Romans à lire et romans à proscrire.
Romans à lire et romans à proscrire.
Il invente six catégories dans lesquelles il va classer, effectivement, ordonner l'ensemble de la littérature disponible.
Est-ce qu'il donne des notes?
Alors, il ne donne pas des notes, mais il dit exactement quels sont les livres qui sont destinés aux petits jeunes gens ou aux jeunes filles, qui sont destinés aux adultes d'un certain âge, et on monte ainsi crescendo. Au fond, les trois premières catégories, ce sont les livres à ne pas mettre entre toutes les mains. La première catégorie, ce sont les livres condamnés par Rome, ceux qui figurent à l'index Librorum Prohibitorum, le catalogue des livres interdits. Cela, personne, même avec dérogation, ne peut les lire. Ensuite, il y a deux catégories réservées plutôt aux professeurs, aux adultes d'âge mûr. Ils considèrent qu'au fond, l'âge permet de se rapprocher d'une lecture presque totale. En revanche, il faut protéger au maximum les jeunes gens, les jeunes filles et les enfants. Il faut également protéger les femmes. Car dans l'esprit de l'abbé Bethléem, le mari doit contrôler les lectures, non seulement de sa femme et de ses enfants, mais également de sa domesticité. Car il est, en fait, le véritable chef du foyer et c'est à lui qu'au fond, on demandera des comptes lorsqu'il disparaîtra. Oui. L'abbé Bethléem, avec ce livre, Romans à lire et romans à proscrire, a donné aux catholiques du monde entier un moyen de contrôler cette production énorme qui se déverse un peu partout. Oui. On a oublié aujourd'hui que le français n'est pas seulement la langue de la diplomatie avant la Première Guerre mondiale, mais la langue de diffusion de l'Église catholique. Avant également la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que la plupart des prélats dans le monde lisent parfaitement bien le français. C'est pourquoi sa revue aura une diffusion exceptionnelle. Oui. Des alors, abonnés la revue, dans 132 pays.
La revue, elle a été fondée...
1908.
Quatre ans après le brûlot.
Quatre ans après le brûlot.
Il y a la revue.
Alors, le brûlot, pour en terminer, il aura 11 éditions successives jusqu'en 1932, 140 000 exemplaires.
Mais ce qui est un best-seller
énorme. Absolument. Si on considère qu'il ne s'adresse pas aux lecteurs moyens, mais qu'il s'adresse aux directeurs de collège, aux éditeurs, aux libraires, à tout ce qu'on appellerait les leaders d'opinion aujourd'hui. C'est un livre que l'on va retrouver en Belgique, que l'on va retrouver au Québec, que l'on va retrouver en Uruguay, qu'on va retrouver en Afrique, en Asie, partout dans le monde.
J'imagine que vous en avez un, Jean-Yves
Mougier,
tout de même.
Oui, grâce à Internet, j'ai même essayé d'acheter les 11 éditions. La première coûte aujourd'hui trop cher, donc j'ai les 10 autres éditions. Et j'ai aussi les autres livres de l'abbé Bethléem, qui s'est intéressé ensuite à la presse, qui s'est intéressé aux illustrés pour la jeunesse. Il sera un adversaire résolu de Tarzan, du journal de Mickey, de Jumbo, enfin de tous ces, de Hourra, de tous ces magazines.
Il n'aimait pas les pieds nickelés non plus.
Alors, il n'aimait pas les pieds nickelés. Il détestait au fond les comic books à l'américaine. Il détestait les fumetti à l'italienne. Et il détestait les bandes dessinées à la française, sauf Bécassine et La Semaine de Suzette, sauf Tintin. Parce que c'est ça qui fait son originalité. Il n'a rien contre le 8e art, ni le 7e art, ni le 8e, ni le 9e, s'il l'avait connu, la télévision. Il n'a rien contre les nouveaux médias. Il considère que les catholiques peuvent lire des bandes dessinées, peuvent écouter la radio, peuvent aller au cinéma. Ce qu'il veut, c'est que le contenu de ces trois médias soit contrôlé, afin effectivement que l'on évite d'être en contact avec ce qu'il considère être comme l'œuvre du malin.
L'œuvre du malin.
Il croit au diable, il croit en la présence physique du diable.
Oui, oui. Alors, après la revue, au fond, cette revue, elle paraissait tous les combien, cette revue quelle était la périodicité?
C'est une revue mensuelle, donc qui paraît d'abord sous le titre Roman-Revue de 1908 à 1914. La Première Guerre mondiale interrompt sa diffusion, et dès la fin de la Première Guerre mondiale, dès 1919, elle change de nom et devient la Revue des Lectures.
La Revue des Lectures.
Elle aura 15 000 abonnés, ce qui est considérable, pratiquement autant que la NRF. Oui. Et c'est là aussi...
Mais c'était les paroisses quand même, Jean-Yves Mollier.
Non. C'était pas les paroisses, parce qu'il y avait 6 000 éditeurs, libraires ou hommes du livre en France, imprimeurs également, qui étaient abonnés et qui en tenaient le plus grand compte. Dans la correspondance de cette Revue des Lectures, on trouve des lettres des éditions Plomb, qui disent qu'effectivement, désormais, ils vont contrôler le contenu de leur publication.
Oui.
Alors bien sûr que les paroisses, naturellement, les bibliothèques paroissiales étaient abonnées. Mais ça, je dirais que ce sont les autres abonnés. Mais il y a d'abord les laïcs qui l'influencent. Parce qu'au fond, jusqu'à maintenant, on avait considéré sa revue comme une revue de bibliographie. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard l'avaient utilisé, avaient travaillé sur ce matériau dans leur fameux livre sur les discours sur la lecture de 1880 à 2000. Mais bien plus qu'une revue de bibliographie, elle est un magazine culturel, au même titre que les nouvelles littéraires, au même titre que la Quinzaine littéraire ou le magazine littéraire aujourd'hui, au même titre que la NRF. Et c'est en ce sens qu'elle a été capable d'influencer profondément les contemporains pendant la longue période de l'entre-deux-guerres, pendant les 20 années de l'entre-deux-guerres.
Oui, vous avez, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais votre intervention. Vous avez parlé des correspondances. Est-ce que vous avez retrouvé des correspondances de lecteurs? Et de manière générale, est-ce qu'il y a des archives? Vous avez travaillé avec... Vous avez la collection extraordinaire de la revue. C'est déjà un travail énorme, je crois que...
Alors, grâce à Gallica, grâce à la numérisation, on peut effectivement aujourd'hui disposer de la quasi-totalité des numéros. Il y a quelques numéros manquants qu'on lit dans les bibliothèques spécialisées. Donc effectivement, j'ai lu la totalité de romans-revues, de la revue des lectures et des livres.
Ça représente des milliers de...
Pages.
De pages.
En effet, ça représente un gros travail, mais je considère qu'on ne pouvait pas faire le tour véritablement du personnage si on ne se rendait pas compte précisément qu'il ne s'agissait pas d'une revue de bibliographie, qu'il s'agissait, je le répète une troisième fois, d'un véritable magazine culturel, touchant à tous les domaines de la vie culturelle. Et c'est ça qui en fait l'importance.
Est-ce qu'il avait des collaborateurs pour faire cette revue? Comment ça se passait concrètement? Parce que enfin, c'est un énorme travail. Hein,
alors, bien entendu.
Lire les livres, répondre aux gens, enfin, c'était du travail. La Bethléem avait du travail.
La Bethléem avait réussi à monter rue de Vaugirard à Paris une véritable agence. C'est comme ça qu'il faut voir les bureaux de la revue des lectures. Il préparait des articles qu'il donnait gratuitement aux journalistes de province qui lui écrivaient en disant « Eh bien, l'opéra de notre ville à Lyon ou à Bordeaux ou bien le théâtre municipal va afficher telle et telle pièce ou tel et tel opéra ». Il envoyait immédiatement à qui le lui demandait une information. Il avait réalisé avec ses collaborateurs plus de 15 000 dossiers dont la plupart sont disponibles aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal.
Ah, c'était l'Arsenal.
Dossiers thématiques sur François Mauriac, Georges Bernanos, etc., sur les écrivains de son époque, vivants ou morts. Dossiers thématiques également sur un certain nombre de médias, sur le cinéma, sur la radio, notamment. Ces archives ont transité par le petit séminaire de Langres, qui les a données en 1986 à la bibliothèque de l'Arsenal, et puis, grâce à des correspondants locaux, j'ai pu retrouver une partie de la correspondance. Oui. On ne connaît donc pas tous les collaborateurs de la Bethléem, on en connaît un certain nombre, je donne leur nom dans mon livre, mais on ne les connaît pas tous. Mais il faut vraiment envisager son travail comme celui d'une grosse agence. Il aurait d'ailleurs souhaité créer un journal qui aurait été un journal, un quotidien catholique du matin, qui aurait été installé rue Réaumur et qui aurait permis.
Dans le grand quartier de la presse.
Voilà, qui aurait permis aux catholiques, au-delà du journal La Croix qui existait, d'aller véritablement très en profondeur dans le pays. Son rêve, c'était de reconquérir la majorité des Français, au fond, à l'instruction, à certains diront l'idéologie. À la représentation, au message de l'Église catholique.
C'est pas seulement un homme pittoresque, c'est un homme de pensée, au fond. Il avait une pensée cohérente qui reposait sur l'extrême importance du livre. Alors, vous avez parlé de plomb, donc des éditeurs. Quels sont, à cette époque-là, les éditeurs qui l'ont soutenu ?
En fait, au départ, il n'est pas soutenu par les éditeurs, mais un certain nombre d'éditeurs vont prendre conscience peu à peu de la force que représente la Bethléem et la revue de lecture. Il est soutenu par la Fédération nationale catholique, il est soutenu par les ligues de moralité extrêmement nombreuses, il est soutenu par les associations de pères de famille nombreuses, également très influentes dans l'entre-deux-guerres. Et donc, c'est plutôt à leur corps défendant que les éditeurs vont effectivement accepter le contrôle de la Bethléem.
Parce alors, un peu à leur corps défendant quand même.
Oui, à leur corps défendant. Oui. Plomb est une maison traditionnelle, donc évidemment, Plomb,
à cette époque, hein, il faut
Blue
dire qu'elle
Deguay, les maisons d'édition catholiques de l'époque vont évidemment le soutenir. Gallimard est beaucoup plus éloigné. Grasset, qui est lui-même très conservateur, est beaucoup plus proche. De Noël est situé plutôt assez loin de cette maison d'édition. Mais au fond, tous les éditeurs sont obligés de tenir compte de l'existence de cette revue. Un petit peu, je dirais, toute proportion gardée, comme l'existence de Télérama aujourd'hui, c'est-à-dire un magazine culturel qui effectivement parle des livres, parle de la radio, du théâtre, du cinéma. Voilà un petit peu comment il faut, au fond, relire la revue des lectures et pas simplement comme une revue qui parlerait
que
de livres.
Télérama, c'est pas la Bethléem.
Bien entendu. Télérama se situe dans la...
Je plaisante,
disons,
bien entendu.
Disons que la Bethléem a créé le type de magazine culturel qui, à la Libération, débouchera sur Télérama. Mais naturellement, le contenu de Télérama aujourd'hui est à 100 lieues de la Bethléem.
Alors, les écrivains, il avait ses têtes de turc. Il y en a qui n'aimaient pas du tout. Alors, parmi les vieilles gloires, il n'aimait pas Georges Sand. Il la trouvait alors dévergondée, libre penseuse.
Laïque, socialiste, républicaine,
socialiste,
tout ce qu'il déteste.
Communiste même, disait-il.
Communiste, absolument.
Ouais, absolument. Donc il n'aimait pas du tout. Sauf, disait-il, les romans paysans. Bon, ce qui d'ailleurs pose problème pour la manière dont on voyait les romans paysans de Georges Sand. Peu importe.
Ça, c'est la contradiction de la Bethléem.
Oui, la Bethléem.
C'est un amoureux de la littérature, mais bien entendu, catholique, il respecte les commandements de l'Église et par conséquent tous les auteurs qui sont à l'index Librorum Prohibitorum sont interdits. Mais il les chasse par la porte et il tente de les faire revenir par la fenêtre. Vous l'avez dit, il n'aime pas Georges Sand, il condamne effectivement sa prose, mais il sauve les trois romans de la pastorale, La Mare au Diable, La Petite Fadette. Il déteste Victor Hugo, mais il aime quand même le poète. Alors il propose aux jeunes de lire les morceaux choisis. Il déteste Lamartine, mais il sauve également les extraits. C'est ça la complexité. J'ajouterais qu'en littérature pour la jeunesse, il va très loin. Il aime L'île au trésor de Stevenson. Il aime toute une série de romanciers qui nous étonnent. Huckleberry Finn, par exemple, trouve grâce à ses yeux. Wells, la machine à explorer le temps, il l'accepte également. Donc on aurait tort d'en faire uniquement
le père Fouettard.
Il a été un père Fouettard, mais à côté de cela, il y a un homme, au fond, beaucoup plus en phase avec son époque, qui comprend que la jeunesse a envie de lire de la littérature d'évasion. Il va rater le roman scout parce qu'il apparaît vraiment au moment où il disparaît lui-même. Mais le roman scout probablement lui aurait plu parce que c'est du véritable roman avec du suspense, avec de l'action.
Oui. Alors, il avait des têtes de turc, on le disait tout de suite, et notamment parmi les écrivains catholiques. Par exemple, il n'aimait pas du tout François Mauriac.
Absolument.
Et d'une certaine manière, je pense qu'il avait du flair. Parce que, au fond, il n'y a rien de plus sensuel que les romans de François Mauriac. François Mauriac a très bien compris l'importance du sexe, de la sensualité, et il les décrit admirablement. Enfin, c'est admirable. Donc, on voit que l'abbé Bethlehem, ça irait dans votre sens. Ce n'était pas un mauvais lecteur.
Exactement. Oui. C'est un bon lecteur. Il a très bien vu que ce romancier qui s'affirme comme catholique est dangereux parce que, au fond, c'est un véritable romancier qui s'appuie
sur les passions humaines,
qui effectivement, avec le désert de l'amour, avec le nœud de vipère, avec Thérèse d'Esquerou, va très loin dans l'exploration du cœur, de la misère aussi, ou de la grandeur de ce qui fait l'homme et la femme. L'abbé Bethlehem s'est opposé à François Mauriac en disant qu'au fond, François Mauriac risquait de détourner les catholiques de leur chemin, de leur devoir. C'est en ce sens-là qu'il va très loin.
Et encore, l'abbé Bethlehem ne savait pas que François Mauriac était bisexuel, disons.
Exactement.
On le sait maintenant. S'il l'avait soupçonné, ça aurait été évidemment...
Absolument. Ça lui aurait donné raison.
Alors,
avec Bernanos,
il
est plus ambigu. Il a accepté les premiers romans de Bernanos, mais les prises de position au moment de la guerre d'Espagne de Bernanos amèneront l'abbé Bethlehem à condamner violemment, évidemment, les grands cimetières sous la lune. Mais là aussi, c'est intéressant. Il a aimé le premier Bernanos, celui qui était antisémite, celui qui se réclamait de Drummond. Et il a détesté, évidemment, celui qui, devant les crimes commis par les franquistes, dénonce ces charniers que l'on trouve en Espagne un peu partout.
A pris des positions, Donc, l'abbé Bethlehem, c'est compliqué. En réalité, c'est compliqué.
C'est infiniment plus compliqué qu'on ne pouvait le penser.
Alors, quelle a été l'influence, au fond, de l'abbé Bethlehem? Parce que, réel, d'après ce que vous montrez, l'importance de tout ça. Mais, politiquement, il meurt en 39. On ne saurait lui imputer Vichy. Il est mort. Mais, il semble bien... d'après ce que vous écrivez, que sa pensée a eu de l'influence sur travail, famille, patrie ou quelque chose comme ça. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bien entendu. Je l'ai dit en introduction, ces deux victoires, la première, il est encore vivant mais malade, c'est effectivement le décret-loi pris à l'été 1939 qu'on appelle le Code de la famille, je vais y revenir, et 10 ans donc après sa mort, la loi du 16 juillet 1949, dite de protection de la jeunesse. Le Code de la famille donne enfin aux associations le droit d'ester en justice, de remplacer les individus et de porter plainte. Il faut se souvenir que dans l'entre-deux-guerres, les ligues de moralité, les ligues pour le relèvement, la ligue française pour le relèvement moral, toutes ces ligues qui nous paraissent un peu désuètes aujourd'hui, elles sont très nombreuses. C'est elles qui manifestent, c'est elles qui occupent la rue, c'est elles qui distribuent des tracts, c'est elles qui collent des affiches. Vous voyez, aujourd'hui, on assimile toutes ces manières d'occuper la rue, au fond, à une pratique de gauche, à une pratique de syndicat. Alors, même si on est en train de redécouvrir aujourd'hui que les formations de droite sont tout à fait capables, effectivement, d'utiliser la rue.
Daniel Tartakovsky a publié un livre
récent
à ce sujet. Récemment.
Absolument.
Oui.
Daniel Tartakovsky montre très bien qu'effectivement, on a eu tort d'assimiler trop vite effectivement, ces pratiques politiques à des pratiques de gauche, alors qu'au départ, y compris le tract a été inventé par les milieux catholiques. Donc, ces ligues ont obtenu en 1939 une très grande victoire. On voit effectivement le gouvernement dire aux ligues qu'au fond, elles ont préparé le terrain. Alors, pourquoi est-ce que la République ou une partie de la République s'est ralliée aux thèses de l'abbé Bethlehem? Il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment la montée du danger, du fascisme en Italie, du nazisme en Allemagne. Mais il y a aussi la baisse de la natalité. La France avait 1 million de naissances avant la Première Guerre mondiale.
Le thème démographique est très important.
600 000 naissances par an à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. On s'inquiète bien au-delà des milieux sensibilisés par l'Église catholique. On s'inquiète de cette dénatalité, de cette espèce de décadence. Songez à Alfred Sauvy qui représente un peu ce courant-là. Et donc c'est sur cette base qu'il y a une rencontre tout à fait étonnante entre des milieux qui se sont combattus antérieurement.
Autour du fameux thème de la famille.
De la famille,
de la défense de la famille. Nous savons bien que c'est quelque chose d'essentiel.
Et 10 ans plus tard, en juillet 1949, la fameuse loi de protection va être votée par tous les députés, à l'exception des députés communistes, sauf qu'en 1946 et 47, ils ont travaillé avec le MRP, avec la SFIO, avec toute la représentation nationale pour préparer le vote de cette loi. C'est donc pour des raisons purement conjoncturelles, à cause de la guerre froide, pour aller vite, que le Parti communiste et ses députés ont voté contre la loi. Oui. Donc ce qui m'intéresse, c'est de me demander pourquoi, en 1949, la totalité de la représentation nationale est d'accord avec une idéologie véhiculée 15 ou 20 ans avant par l'abbé Bethléem et par l'Église catholique. C'est ça la victoire posthume de cet abbé de combat.
Oui, oui, oui. Quelle histoire, effectivement, que celle de l'abbé Bethléem que vous venez de nous rappeler très bien, Jean-Yves Mollier, dans votre livre « La mise au pas des écrivains, l'impossible mission de l'abbé Bethléem », paru donc chez Fayard et que nous venons de voir. C'est extraordinaire de penser que en 1949, il y a cette loi dont on vient de parler, et la même année, Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe. Hein, vraiment, là, il y a quelque chose, ça serait d'ailleurs tout à fait passionnant. De
la même manière que pendant l'entre-deux-guerres, on parlait des années folles, on parlait de Joséphine Baker, et au même moment, il y avait son antithèse, l'abbé Bethléem.
Exactement. Marie-Françoise Lévy, Evelyne Cohen, toutes les deux, vous êtes des spécialistes, j'allais dire, plutôt de l'histoire des médias, mais l'histoire de la télévision, hein, c'est ça à quoi vous vous êtes vraiment toutes les deux attachées. Vous avez publié un livre ensemble, vous avez co-dirigé un livre commun. Pouvez-vous nous en rappeler le titre ?
Alors, la télévision des 30 glorieuses, culture et politique, c'est un livre qui venait après quelques années de travail en commun, de mise au jour d'archives audiovisuelles et écrites de la télévision. Et donc, on a réuni une équipe de spécialistes, on peut dire, de chacun des secteurs de la télévision. Politique, culture, éducation populaire, théâtre, sport, etc. Pour arriver à converger autour de l'objet télévision des 30 glorieuses.
Voilà. Et vous, Marie-Françoise Lévy, vous travaillez ensemble, vous travaillez alors, peut-être dans une autre structure.
Je travaille dans une autre structure, mais mes premiers pas ont été lors de la création de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Où Jean-Yves Mollier et Pascal Horry m'avaient demandé, je leur en ai une très grande reconnaissance, de réaliser et de prendre en charge un cours d'histoire de la télévision inscrite dans l'histoire culturelle contemporaine. Oui. En fait, sans doute, est-ce que ça constitue un moment important dans le cadre aussi de la création du centre culturel de Saint-Quentin, puisque c'était un temps finalement, de l'inscription dans un enseignement d'histoire de la télévision comme instance culturelle et qu'il fallait la prendre dans sa considération du temps politique et social. Et sans doute, est-ce une démarche qui nous a rapprochés avec Evelyne, une conception de ce travail dont il faut rappeler quand même qu'il a été largement initié par Jean-Noël Jeannet et avec Mick Sauvage et tout un courant, Hélène Eck, bien entendu, Caroline Moria, Cécile Méadel, Jérôme Bourdon, dans les années...
Robert Franck aussi.
Dans les années 1977. Oui. Quand je suis rentrée à l'Institut d'Histoire du Temps Présent que dirigeait Robert Franck, il était très attaché à ce que se développe ce champ de recherche. François Bédarida l'était également. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec Evelyne, nous avons construit, créé, inventé ce séminaire qui s'appelait Télévision, source, objet, écriture de l'histoire.
Et quels sont vos rapports avec l'INA ? L'Institut national de l'audiovisuel.
Oh, c'est une longue histoire.
Elle
commence en 1985, à un moment où je me pose la question de savoir pourquoi ces émissions de télévision ne sont pas reconnues et prises en considération comme des sources de l'histoire du temps présent. En fait, c'est une question que, donc, je l'ai dit, que Jean-Noël Jeannet avait initiée, notamment avec une publication très importante dans Le Monde, une tribune en 1982. Mais dès 1985, je m'étais attelée, je m'en souviendrai vraiment, pendant un été et une année qui a suivi, à inventorier les émissions, tout genre confondu, mais je ne savais pas encore qu'on parlait en termes de genre, qui prenait la famille comme sujet. Vous savez, question était de savoir, mais comment la télévision s'est-elle constituée comme un acteur de ces mutations ?
La bébé Bethléem aurait peut-être été très intéressée.
Il l'aurait sans doute été. Voilà. Et puis ensuite, avec Evelyne et Colette Lustière, et maintenant Noël Sicard et Marilyn Crivello, nous avons fait ce travail considérable d'inventaire, dont sans doute tu diras un mot, et qui a abouti à cette collection qui s'appelait...
Image du temps présent à la télévision.
Image du temps présent à la télévision.
J'insiste, avec une logique d'archive. C'est-à-dire que nous n'avons pas voulu avoir une démarche qui consistait à faire du documentaire, à couper des extraits, etc., mais à restituer l'intégralité de l'archive. Je crois que c'est ça qui était important et qui nous a soudés dans une démarche d'approche à la fois des archives audiovisuelles et des documents. D'une part, vous posiez la question de l'INA. L'INA recèle les documents d'accompagnement de ces émissions, toute la documentation de l'institution télévision. Et d'autre part, cela crée aussi un mouvement dans d'autres instances d'archives qui sont aussi bien France Télévisions, les Archives Nationales, Radio France, etc. Et donc voilà, donc c'est ce qui a été, ce qui a parrainé notre travail.
Oui, alors oui,
Jean-François Lévy. Je voudrais juste rappeler quand même que c'est la loi de 1992 qui a été votée, je crois, à l'unanimité et qui a été défendue par Jean-Noël Jeannet à l'Assemblée est un moment fondamental. Les décrets d'application, néanmoins, notons-le, n'ont été publiés qu'en 1995, donc il a fallu encore un deuxième temps de mobilisation. Il y a quand même toute une série d'obstacles qui participent de cette histoire culturelle du temps présent, d'ailleurs. Et cette loi de 1992, elle institue évidemment la reconnaissance du document de radio et télévision comme sa dimension patrimoniale.
C'est un champ immense, c'est un champ absolument immense, avec des archives, avec des méthodes, parce qu'enfin on est devant l'image tout de même. Il y a à la fois l'écrit et l'image elle-même. Et il y a évidemment plein de manières de faire cette histoire, et vous en donnez dans vos deux livres-là des exemples. Marie-Françoise Lévy, vous venez de diriger, vous avez écrit beaucoup dans ce livre, une monographie sur Jean Darcy, qui a été un des pères fondateurs au fond de la télévision. Eh bien, parlez-nous un peu de Jean Darcy. Qui était-il et qu'est-ce qu'il a fait ?
Alors, dans ce livre collectif, et j'en remercie, je le dis vraiment tout de suite, tous les auteurs qui ont contribué, c'est vraiment un travail collectif auquel j'étais très attachée, parce que on ne peut pas non plus travailler sur l'histoire de la télévision ou de cette période sans rencontrer Jean Darcy. Donc, je l'avais rencontré dans les années 85-87, et notamment par la question des téléclubs. Et c'était extrêmement intéressant, parce que là aussi, à travers les téléclubs, et les téléclubs qui ont connu un très vif essor dans les années 1949-1954 autour de Roger Louis, et dans une région très particulière qui est l'Aisne, autour de Château-Thierry, où Roger Louis était professeur de sciences naturelles, mais appartenait à des mouvements d'éducation populaire, et qui a mis en place une réflexion et des outils, et a substitué au ciné-club le téléclub. Voilà. Donc, et ça créera aussi quelques difficultés et quelques négociations avec les téléclubs d'inspiration catholique, auxquels le révérend Père Pichard est très attaché. D'ailleurs, chacun des deux écrira un livre sur ce sujet. Et puis enfin, dernier élément dans ce contexte, des années 49, où Jean Darcy est à l'époque chef chargé de mission auprès de François Mitterrand, secrétaire d'État chargée de l'information et où l'année 49 est une année déterminante.
L'année 49 est une année déterminante, on l'a bien vu avec la loi dont on a parlé.
Tout simplement parce qu'elle institue la radio-télévision française par loi. Et donc, elle installe la télévision dans l'espace public, puisqu'avant, il y avait la RDF, la radiodiffusion française. Donc, c'est bien vraiment reconnaître dans le champ du politique et de l'espace public la télévision. Et puis, évidemment, ce décret qui institue la redevance et donc sous-entend qu'il faut un financement pour contribuer à la création de cette institution.
Question, Marie-Françoise Lévy, à cette époque-là, on est 49-50, mettons, il y a combien de postes de télévision en France, et à peu près, quoi, et combien de téléspectateurs? Qu'est-ce que ça représente?
Ça représente, alors, le premier chiffre de la redevance, c'est 2000, quelques 2000 postes, mais vous avez aussi un certain nombre d'ingénieurs qui les fabriquent. Et constituent des téléclubs. C'est pour ça que le téléclub a eu un rôle si important. Et notamment, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les zones rurales. Le téléclub joue
un rôle. On se réunissait autour d'un poste de
télévision. On se réunit à l'école. Et il y a une photo magnifique, d'ailleurs, dans un des films, où on voit dans l'école tout le village. Et à Nogentel, autour de M. Beaufort, l'instituteur. Et vous avez une carte de France, le tableau noir et l'écran de télévision.
Evelyne Cohen, vous vouliez dire ?
Juste pour dire que ce chiffre, il ne faudrait pas le prendre comme un faible rayonnement de la télévision,
non,
tout
c'est
à fait.
Pour ça que les téléclubs,
c'est-à-dire que, voilà, d'une part les téléclubs, d'autre part les modes d'écoute, par exemple aussi les gens regardaient dans les vitrines, les postes de télévision, ils se regroupaient autour, etc.
Il y avait des modes de consommation tout à fait différents.
On a aussi la preuve par la censure,
les cafés aussi.
Puisque, par exemple, alors qu'il y avait peu de postes à l'élection du président René Coty en décembre 1953, on a interrompu le spectacle. On a interrompu le spectacle parce que cela a donné une mauvaise image de la France. Donc il y a quand même des éléments qui montrent la puissance du média, qui a des médiations pour se diffuser.
Oui, oui. Marie-Françoise Lévy.
Alors, je partage complètement cette approche, mais entre-temps, il y a eu cet élément fondamental, cet événement fondateur de l'Eurovision qui est la retransmission dans 5 pays du couronnement de la reine d'Angleterre. Ah. Et ce qui va provoquer un certain nombre de prises de conscience, et notamment de la faiblesse de la télévision et de son développement en France, et qui aboutira à un vote, le fameux vote du plan quinquennal de 1953. Darcy va être au cœur de ce double travail, de ce double défi, de ce double pari. Construire la télévision comme une instance culturelle au plan national et en même temps construire ce réseau des télévisions d'Europe. Il est un Européen convaincu. Il a initié dès 1950, alors qu'il n'est pas encore directeur des programmes, il prendra cette fonction de 1952, il l'assumera jusqu'en 1959. Il sera, après son travail auprès de François Mitterrand, nommé responsable des relations internationales auprès de Vladimir Porcher, qui est le directeur général de la RTF.
Et où est-ce qu'était, à ce moment-là, la télévision ?
Où est-ce qu'elle était ? Elle était rue Cognacq-Jay.
Ah oui, c'est ça, rue Cognacq-Jay.
Bâtiment les studios de la rue qui a été acheté pendant les années d'occupation.
Oui.
J'ai retrouvé d'ailleurs les plans des bâtiments et de ce qui s'appelait le Magic City à l'époque.
Oui. Alors, Jean Darcy, il était aristocrate,
Oui, tout à fait.
Il était chrétien.
Oui.
Il avait été résistant.
Oui.
Bon, tout ça. Et comment est-ce qu'il voyait la télévision ?
Il la voit comme une instance culturelle qui doit être au service de l'intérêt général. Cette notion de l'intérêt général, elle est fondamentale chez
pour lui.
Oui. Et cela conduira d'une certaine façon toute sa réflexion et en même temps tous les obstacles qu'il rencontrera à faire comprendre sa pensée. Autant il est favorable à la question de servir l'intérêt général, autant il n'est pas favorable, et sa fonction, notamment à l'ONU, le confirmera dans cette pensée, à la question du monopole public en ce qui concerne la situation de la France et sa conception très centralisée de l'information.
Est-ce qu'il ne va pas avoir, de ce point de vue-là, conflit avec le pouvoir gaulliste
Il n'aura pas un conflit avec le pouvoir gaulliste, il aura un désaccord complet.
Un désaccord, c'est ça.
Il sera démis purement et simplement de sa fonction.
Il sera démis de sa fonction.
De programme. Tout en conservant, là encore, c'est tout à fait étonnant dans cette trajectoire, une responsabilité à la RTF en ce qui concerne la direction du service des relations internationales.
Oui, car il a fait au fond plusieurs carrières, d'une dizaine d'années au fond à la télévision à peu près, et puis ensuite une carrière internationale qui l'a menée vers l'ONU et qui a été très brillante aussi.
Alors à l'ONU, il occupe un poste très important puisqu'il est directeur des moyens audiovisuels et il va sillonner le monde et il va évidemment dans une position internationale, pour ne pas dire à l'échelle mondiale, voir comment se développent ces nouvelles technologies de communication. Et tout au long de son existence, Darcy pensera cette question de la communication au service des droits de l'homme. Il en fera même un article extrêmement important qu'il publiera en 1969 dans la revue de l'UER et qu'il enverra à Edmond Michelet, avec lequel il a noué une amitié très fidèle. Les correspondances entre Darcy et Michelet ont été conservées et par Jean Darcy, on les trouve à l'Inatec, mais aussi par Edmond Michelet. Elles sont même annotées avec une chronologie très précise de leur rendez-vous. Ils se rencontreront, ils se verront d'ailleurs à New York à plusieurs reprises, et Jean Darcy verra Michelet à Paris. Et
est-ce que la mémoire de Jean Darcy est vivante aujourd'hui? Est-ce qu'on s'en souvient de lui?
Alors, c'était l'étrange, là aussi, paradoxe de cet homme dont l'aura en tant que directeur des programmes
est
considérable et où en même temps on connaissait moins bien, pour ne pas dire beaucoup moins bien, son œuvre prise dans l'histoire du siècle. Et c'était ça qu'il nous importait de mener à bien dans ce travail collectif.
Il y a plusieurs manières de faire l'histoire de la télévision. Celle-là est très importante. Evelyn Cohen, il y a aussi l'étude des contenus. Et dans le livre tout à fait passionnant que vous venez de publier avec Myriam Tsikounas, qui s'appelle 1967 au petit écran, une semaine ordinaire. Et c'est les presses universitaires de Rennes qui viennent de publier ce livre. Alors là, vous faites un travail totalement différent. Vous prenez une année, une semaine, vous décortiquez. C'est un ouvrage collectif. Pourquoi avoir choisi 67? Pourquoi avoir choisi cette semaine de septembre 67?
Alors, d'une part, c'est effectivement un travail collectif. Je voudrais juste préciser qu'il a été mené justement en étroite collaboration avec Jean-Michel Roth de l'INA.
Et avec André Roche.
Voilà. Oui. Et toute une équipe, justement, de spécialistes. Pourquoi 1967? Parce qu'on peut dire que ce n'est pas 1968. C'est-à-dire qu'on avait l'idée de ne pas vouloir travailler sur des choses, des événements extraordinaires, des grandes personnalités, la télévision de Gaulle. Tous ces champs ont été travaillés, labourés, etc. Quoique, il y a encore beaucoup de choses à faire et le travail sur Jean Darcy le démontre complètement. Nous avons voulu choisir, on a pris les magazines de programme, qui sont une véritable source, Télérama, Télé 7 jours, etc. Enfin, tous ces magazines de programme.
Si la BBTM avait été là, vous l'auriez sûrement écrit.
Et on a cherché une semaine qu'on voulait la plus ordinaire possible. Mais en trouvant la semaine du 23 au 30 septembre 1967, dans un premier temps, nous ne nous sommes pas aperçus qu'il s'agissait de la semaine qui précédait l'avènement de la couleur à la télévision. Donc, révélait pas si ordinaire que ça, juste avant la mise en place de nouveaux programmes, en particulier donc sur la deuxième chaîne. Alors l'intérêt finalement qui s'est avéré, c'est qu'en allant consulter les archives écrites, nous avons trouvé dans les archives des conseils et comités de programme toute une série de discussions sur qu'est-ce qui vaut la peine d'être mis en couleur, qu'est-ce que nous voulons garder dans cette télévision, qu'est-ce qui est ennuyeux. Ça a été aussi une grande approche justement des goûts. Des goûts des publics, à un moment où la télévision devient un média de masse, donc plus de la moitié des Français ont la télévision, et où on se dit que...
Oui, en 67, plus de la moitié des Français, on voit la différence, effectivement.
Donc, les fameuses missions qui étaient mises en avant par Jean Darcy et par tous les participants à l'établissement de la télévision, c'est-à-dire ces trois missions, informer, éduquer, distraire, mis dans des ordres différents selon les moments. Donc, était bousculée justement par les envies de distraction, de loisirs, etc., du public. Et voilà. Donc, et en même temps, on voulait conserver, puisqu'on est encore dans l'époque gaulienne, le primat de l'information.
Oui, hein. Oui. Alors, je voudrais dire comment votre livre est organisé. Il y a une longue introduction de vous et de Myriam Sikouna sur hommes, techniques et paysages d'une télévision de service public. Alors là, mise au point sur la télévision en 1960. Ensuite, il y a des grandes figures et vous avez interviewé Ange Casta et Alexandre Tarta, qui sont des grands créateurs de la télévision. C'est très intéressant, tout à fait intéressant. Il y a des transversales, si on veut, avec André Rauch sur le sport, vous, Evelyne Cohen, sur l'information, Myriam Sikouna sur la publicité et puis... Madame Donzel, je crois, sur le courrier des téléspectateurs. Et puis alors après, c'est quand même la plus grosse partie, une semaine, la fameuse semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, avec évidemment à chaque fois l'émission phare du jour. Alors ça, je trouve que c'est absolument tout à fait intéressant. Vous vouliez dire quelque chose?
Oui, juste un mot, je pense qu'ils ont bien choisi l'année 67 parce que on peut dire que c'est avec les transistors, donc avec la radio, que les Français ont suivi la tentative de coup d'État putschiste à Alger en 1961. C'est évidemment avec la télévision que l'on a suivi la retransmission des événements parisiens de mai-juin 1968. On voit bien la différence, donc de ce point de vue-là, 67, c'est une très bonne année.
C'est une très bonne année.
Et c'est aussi l'année où, de la loi Neuwirth, quand même, il ne faut pas l'oublier. Il y a un avant 67 et un après 67.
Oui, mais est-ce que... Oui, comment, Marie-Françoise, Marie-Françoise
Dévy? Oui, d'où l'importance...
D'une des émissions que tu as étudiées,
c'est-à-dire les femmes aussi.
Oui, on va y venir, on va dire un petit mot. Mais on ne va pas pouvoir tout dire, bien entendu, ça va de soi. Sur cette semaine-là, lundi, mardi, de quoi auriez-vous envie de nous parler? Qu'est-ce qui vous a frappé?
Ce qui nous a frappé, c'est justement une sorte d'hésitation entre différents modèles des choix. Par exemple, on va prendre l'exemple des feuilletons, qui sont très très importants, qui ont été étudiés...
Déjà très importants.
Très importants, étudiés par Myriam Tikounas. Alors, on voit que les problèmes de financement, hein, financement de ces feuilletons, il faut qu'ils reviennent le moins cher possible. Bon. Et du coup, on va chercher le répertoire du 19e siècle qui est plus économique. Ensuite, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ces feuilletons, eh bien, intervient la publicité. Or, on sait qu'il y a l'avènement de la publicité à la télévision en 1968, mais il y a une publicité clandestine à l'intérieur des feuilletons, qui est d'une part dénoncée, mais d'autre part qui sévit à l'intérieur complètement. Voilà. Donc, si vous voulez, on sent toutes les tensions en œuvre à l'intérieur de ce média qui finalement, si vous voulez, s'approprie dans la pratique un certain nombre de choses.
Une publicité diffuse dans le fond, qui est.
On voit vraiment la voiture de telle marque, le produit que les enfants doivent manger, etc., etc.
Oui. Et puis alors, il y a des grandes émissions qui ont beaucoup marqué. Parmi celles-là, il y a celle des femmes aussi que vous avez étudiée dans ce livre. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot parce que Eliane Victor est quand même une grande figure.
Eliane Victor est une grande figure et je remercie Evelyne Cohen et Myriam Sikouna de m'avoir invitée à participer à ce travail et à revenir sur les femmes aussi. Eliane Victor, elle a un parcours absolument passionnant. Elle entre à la télévision pour travailler auprès des trois Pierre, Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet, dans le cadre de 5 colonnes à la une. Et puis à un moment donné, elle a cette idée du documentaire. Parce que l'histoire du documentaire à la télévision, c'est extrêmement intéressant. Et elle prend aussi racine, très précisément, sous l'égide d'une certaine façon et à l'initiative de Jean Darcy, cette nécessité qu'il met en œuvre dans les programmes, d'aller voir comment vivent les Français. Donc, et d'une certaine façon, l'émission d'Eliane Victor elle prolonge cette idée de 5 colonnes. Mais simplement dans une dimension filmique qui est d'une autre nature et où il s'agit de raconter une histoire. Et des réalisateurs de 5 colonnes vont venir travailler pour les femmes aussi.
Et comment faisait-elle dans cette émission? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait des types de femmes.
Par exemple,
j'ai vu une émission, je me souviens, qui a été redonnée d'ailleurs, sur les femmes de ménage. Extraordinaire.
Oui, formidable. Formidable. De Jacques Rière.
Oui, les matinales.
Oui. Oui. Elle faisait appel à des réalisateurs.
Dont certains étaient des réalisateurs qui travaillaient pour Sainte-Colonne à la Une. Jacques Rière en fut un, notamment. Et elle leur proposait de choisir un sujet, un thème, et elle accompagnait, en quelque sorte, ce travail. Mais qui est l'œuvre propre du réalisateur.
Oui.
C'est pour ça que, d'une certaine façon, cette émission est extrêmement intéressante. Enfin, l'ensemble des documentaires sont très intéressants, parce que c'est autant de figures de femmes qui disent, d'une certaine façon, quelles sont leurs relations à l'existence matérielle, quotidienne, professionnelle, éducative, familiale.
C'est une émission phare de cette série. Evelyne Cohen, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient à la télévision à cette époque-là?
Non, il y avait en fait une seule réalisatrice, qui était Colette Djidou. Et sinon, il y avait des femmes dans, disons, les plus petits métiers. Par exemple, l'assistante de Stello Lorenzi, qui d'ailleurs a eu finalement de très mauvais rapports avec lui. Il y avait une productrice célèbre qui était Madame Unebelle, qui a eu un rôle, y compris de grand reporter, etc. Donc il y avait quand même peu de femmes. C'est quand même, je pense, un métier d'homme. En particulier en raison de la connaissance technique que cela impliquait. On peut aussi imaginer que la question du poids des caméras, qu'il y a aussi toute une série de paramètres qui font que c'est un métier qui est dominé par les hommes.
Mais il me semble que vous me disiez tout à l'heure, Marie-Françoise Lévy, que les femmes actrices peu, mais étudiant la télévision aujourd'hui, beaucoup. En bref.
Oui. Mais oui, et on ne peut que s'en féliciter. Je voudrais néanmoins rappeler le rôle et la place de Désir Gallard sur la deuxième chaîne, avec cette émission extrêmement intéressante de Dean Damdom, qui a porté aussi des idées, les idées de la jeunesse des années 60, la mode, des écrits aussi, et d'autres façons de filmer qui étaient extrêmement importantes.
Pour revenir à la semaine en question que vous avez étudiée, qu'est-ce qui vous a, encore une fois de plus, d'autres émissions
Alors,
qui vous auraient
frappé? Je pense que cela a détruit en partie les images de la belle mémoire de la télévision, parce que, par exemple, on se rappelle du grand magazine Sainte-Colonne à la Une, mais Sainte-Colonne à la Une, ce n'était jamais qu'une fois par mois. Et donc, par exemple, dans notre semaine, il n'y avait pas Sainte-Colonne à la Une.
Ah,
il y avait
mensuel,
un magazine qui était beaucoup plus conformiste, qui était rattaché à la direction d'actualité télévisée, qui était le magazine Panorama. Il y a d'autre part l'aperçu sur la transformation finalement, par exemple, des figures que l'on montre à la télévision. La figure du héros sportif, comment elle se transforme, comment elle est différente présentée dans l'actualité télévisée et présentée dans des magazines. Les figures comme celle de Jacques Anquetil, ça permet de comprendre quels sont aussi les types de valeurs qui sont mises en avant.
Oui,
alors, il y a
absolument.
Aussi toute la réflexion sur la censure, les images qui sont les images acceptables par la télévision.
Oui. Ce travail très très intéressant appelle d'autres recherches, parce que ce serait très bien de comparer, de comparer avec aujourd'hui ce que c'est qu'une semaine de télévision, par exemple.
Alors il y a eu déjà quand même un sociologue, Éric Massé, qui a travaillé sur une journée ordinaire. C'est beaucoup plus facile parce que l'INA maintenant archive tout systématiquement. Les télévisions publiques, les télévisions privées, le bouquet des 100 chaînes, etc., etc. Aujourd'hui, on peut le faire beaucoup mieux sur le très contemporain et construire des gros corpus qui ont beaucoup moins de trous que ceux que nous avons trouvés, puisque nous avons été dépendants de l'état de ce qui était conservé par l'INA et l'INATEC.
Oui. Et toutes les deux, vous allez œuvrer pour que les archives soient conservées. Elles sont quand même très très importantes aussi dans ce domaine. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette émission. C'était Les Lundis de l'Histoire, présenté aujourd'hui par Michel Perrault, avec Jean-Yves Mollier, Evelyne Cohen, Marie-Françoise Lévy pour leurs livres respectifs. La prise de son était assurée par Philippe Palares. La réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Roger Chartier. Et dans quelques instants, eh bien, c'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Au revoir.